Radio Kapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Une centaine d'enfants de moins d'un an reçoivent des vaccins hebdomadaires contre diverses maladies. Cela se passe au site de l'ISP Bounia et de Kigonze en Ituri. Cependant, certains sites du territoire de Djougou sont inaccessibles à cause de l'insécurité, s'inquiètent les autorités sanitaires locales. La régie de voies aériennes RVA Bandundu exige des enquêtes sérieuses pour retrouver des matériels lui laissés par la MONUSCO. Il s'agit des trois groupes électrogènes. Pas de réaction pour le moment du côté des officiels à ce sujet. Et puis, ce matin, nous recevons Samson Ponchi, ancien catcheur congolais. Il donne son témoignage concernant son collègue Edingwe Motonangenge, décédé le lundi 13 janvier au Maroc. Ponchi Samson a affronté Edingwe plusieurs fois sur le ring. À tous et à toutes, bonjour. Commençons par l'Ituri. Une centaine d'enfants de moins d'une année reçoivent chaque semaine des vaccins de routine contre diverses maladies au site de l'ISP Bounia et de Kigonze. Selon les autorités sanitaires locales, cet engouement est le résultat des sensibilisations qui sont organisées régulièrement par les relais communautaires sur l'importance des vaccins pour la protection des enfants. C'est un reportage de Isaac Remoyope.
Le site de l'ISP de Kigonze héberge environ 9000 enfants, dont plus de 50% en moins de 5 ans. Selon le personnel médical du centre de santé de Kigonze, 120 enfants de moins d'une année se font vacciner chaque semaine contre les tétanos, la coqueluche, l'hystérie et la rougeole. Certaines femmes enceintes défilent aussi dans cette structure sanitaire pour se faire vacciner. Pour les vaccins contre la poliomyélite, l'équipe fait du porte-à-porte dans chaque bloc. Une femme déplacée, mère de 6 enfants, installée au site de Kigonze depuis 2017, dit qu'ils reçoivent régulièrement les vaccins, ce qui leur permet d'être en bonne santé malgré les conditions de vie difficiles qui accentuent la vulnérabilité des enfants. Paulette Danobi.
Il y a beaucoup de naissances ici. Ici, pour le vaccin, ça se fait bien. À chaque porte, on sensibilise d'abord les mamans pour attendre avec leurs enfants. Ça passe bien. Pour les vaccins des peuples de routine, on passe là-bas au centre de santé pour vacciner les enfants.
Cependant, certains sites composés essentiellement des femmes et des enfants, surtout dans les territoires des Djougou, sont inaccessibles pour des raisons de sécurité, ce qui a comme conséquence l'irrégularité des vaccinations en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Province de Maniema, les cadres et agents de la division provinciale de la santé ainsi que ceux de la division du genre sont formés sur l'intégration des considérations de genre et d'inclusion sociale dans les interventions de la vaccination. C'était lors d'une session de formation clôturée hier. La coordonnatrice nationale pour l'intégration de la dimension genre au sein du ministère de la Santé publique fait savoir que cette formation permet de réduire les risques de non et sous-vaccination associés aux inégalités de genre et à l'exclusion sociale. Madame Emiliane Toumba explique au micro de Florence Kizalonga.
Effectivement, nous avons été ici à Maniema. C'est pour deux étapes des activités. La première, nous venons de finir, c'était pour que on puisse renforcer la capacité de membres et des agents et cadres du ministère au niveau de la DPS pour intégrer les considérations du genre et inclusion sociale, que personne ne soit laissé de côté par rapport à la couverture santé universelle. C'est comme ça que nous devons installer une équipe et un comité. Et maintenant, nous voulons dès demain commencer avec deux zones de santé que nous allons aussi capaciter pour qu'ils prennent en compte que personne ne soit laissé de côté. Nous voulons que Maniema puisse d'abord intégrer Jean au niveau de la DPS, mais jusqu'au niveau communautaire. Nous voulons que la considération de tout un chacun, tout ce qui se trouve au niveau de Maniema, puissent avoir les soins de qualité, que personne ne soit laissé de côté.
À Kinshasa, 20 réfugiés lauréats de la formation professionnelle de l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle, bénéficient des lots de kits des différentes filières et d'une enveloppe de démarrage à l'appui financier du ACR. La cérémonie officielle de cette remise a eu lieu hier à Kinshasa, au siège de la représentation du ACR. Objectif, rendre autonomes ces réfugiés urbains à travers notamment la formation professionnelle et l'appui à l'entrepreneuriat. Jeff Opela a pris part à cette activité. Reportage.
L'appui financier du ACR pour le réfugié a ouvert une route pour l'autonomisation des réfugiés. Du matériel leur a été remis. Il s'agit notamment des ustensiles, des cuisines, des ordinateurs portables pour ceux de la filière de l'informatique et des foreuses. L'assistant représentant programme du ACR RDC, Marc Kéria, explique.
Le kit de démarrage que nous remettons aujourd'hui couvre des vastes secteurs d'activité. Cette kit symbolise l'espoir et l'opportunité d'un avenir meilleur pour nos lauréats.
Pour sa part, un des réfugiés lauréats, Hassan Riba, ressortissant de la République centrafricaine, exprime sa satisfaction.
Premièrement, je dirais que nous sommes tous contents pour la remise des kits qui vient d'être faite et par la suite de nos différentes formations, vu que c'était dans plusieurs filières. Alors nous sommes vraiment contents de cette remise.
Notez que les réfugiés ont bénéficié de l'appui du ACR, de la Commission nationale pour le réfugié et l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, ABSSE.
Dans l'actualité aussi, ce drame survenu en Afrique du Sud, Aristote Matabato Mukulu, un jeune Congolais d'une trentaine d'années révolues, est décédé en Afrique du Sud à la suite d'une agression nocturne par des bandits. Sa famille dénonce ce meurtre qu'elle qualifie d'incident diplomatique. Ce jeune revenait de son travail la veille de Noël lorsqu'il a rencontré un groupe de gangsters qui l'ont tabassé à mort dans la ville de Pretoria. Sa famille interpelle le gouvernement congolais sur ce cas ainsi que sur la sécurité des Congolais en Afrique du Sud. On écoute à ce sujet Naik Mbeba, membre de la famille de la victime. Il est joint par Grace Amzati.
Notre défunt petit frère venait de quitter son lieu de travail au niveau du Pretoria, parce qu'il habitait Pretoria. Il rentrait chez lui à la maison, en rentrant chemin faisant, que ce dernier a été victime d'une agression collective. Je ne sais pas, les mobiles ou la motivation qui animait ces agresseurs. Et après, la police d'Africains qui était venu intervenir pour prendre les corps parce qu'il a été copieusement tabassé. Ils ont pris les corps de notre petit frère pour le transférer à l'hôpital dans un état critique et on l'a placé au coma. Donc il a passé du 24 décembre 2024 jusqu'au vendredi 10 janvier, le jour où le petit a succombé suite aux blessures et aux douleurs et hémorragies internes. Pour ce, au nom de la famille, nous demandons à notre gouvernement de s'impliquer pour que la justice soit rendue à notre frère Aristote Matabato et que si aussi le gouvernement peut aider la famille pour le rapatriement du corps de notre frère disparu.
Pour l'instant, pas encore de réaction des autorités congolaises ni de la représentation diplomatique de la RDC en Afrique du Sud à ce sujet. Justice, 10 ans de servitude pénale, 500 000 dollars américains d'amende et l'expulsion définitive de la République démocratique du Congo ont été requis par le procureur général contre les Chinois accusés d'exploitation illégale des minerais au sud Kivu. Le procès s'est poursuivi hier à Bukavu, rapporte l'ACP. Le procureur a aussi requis la saisie de 400 000 dollars et de 10 000 lingots d'or trouvés sur ces ressortissants chinois. Je vous l'ai dit dans les titres, la régie des voies aériennes RVA Ville de Bandundu réclame des enquêtes sérieuses au niveau du parquet général du Kwilu pour retrouver les matériels lui cédés par la MONUSCO. Il s'agit de trois groupes électrogènes, dont un de 150 kVA et deux de 75 kVA. D'après le commandant de la RVA Bandundu, Portas Makolo, la mission onusienne à son départ de Bandundu il y a quelques années avait cédé à la RVA ses matériels ainsi que sa concession située en face de l'aéroport national de Bandundu. Mais à ce jour, ses biens ont pris d'autres destinations. Portas Makolo explique au micro de Irène Boma.
Ce qui se passe chez nous, c'est malheureux. Vous savez, d'abord, je voulais commencer par la MONUSCO, quand ils étaient là. Ils nous ont cédé certains matériels, entre autres groupes de 150 KVA, des groupes de 75-75. Même la concession, ils nous ont donné. Nous avons procédé à la remise et reprise avec la MONUSCO. Ils nous ont laissé le matériel. C'est comme je dis, il y a un groupe de 150 KVA et des groupes de 75-75. Comme ils nous ont laissé la concession, ça pouvait être gardé là-bas. Parce que Pour transporter, c'était pas facile. Parce que nous, on ne pouvait pas supporter 150 KVA. On pouvait supporter 75. Maintenant, tous ces groupes-là, nous ne savons pas. Nous devons demander qu'on restitue nos groupes. En tout cas, jusque-là, c'est le parquet qui va nous dire ça se trouve à quel niveau. Nous avons fait les démarches au niveau de la direction générale. Les topographes sont arrivés avec la carte d'emprise de Manningville. Alors, s'ils ont une carte contraire, ils vont nous dire, parce que nous serons devant la justice. Le dossier est déjà ouvert à notre parquet. Qui les continue, qui les cherche, ces groupes se trouvent où?
Pas de réaction pour le moment du côté des officiels à ce sujet. Au Kasaï central, l'office des voiries et drainage OVD sera doté de 30 engins pour les travaux de la voirie urbaine. Le ministre provincial de la communication l'a annoncé hier à Kananga à la suite des échanges qu'il a eus à Kinshasa avec le directeur général de l'OVD. Piero Mutela indique que ces matériels viennent en réponse au lobbying fait par le gouverneur de province lors du passage du chef de l'État à Kananga. Il signale que ces engins ont déjà été commandés et arrivent au cours du premier semestre de cette année. Piero Mutela, dans ses propos recueillis par François Kadima.
Il y a eu d'abord le premier lot d'engins qui était arrivé sur une commande de plus ou moins 5000 engins, selon les informations de l'OVD, et que la province du Kasaï central a été alignée sur le deuxième lot. C'est pas utopique, mais encore moins chimérique. C'est une réalité parce que la commande a été faite. Les images nous ont été montrées comme preuve, et nous sommes très très sûrs au cours de ce premier semestre, la province du Kasaï central aura le lot de ces engins. Il est très important de le dire maintenant que si nous avons pu souffrir, c'est parce que la province n'avait pas d'engins. L'OVD, même l'office de route, vous savez qu'ils n'ont pas d'engins. Le lobbying tel que fait par son excellence Joseph Moïse Kamoulou-Konko lors du passage monsieur le président de la République, ce lobbying a pu porter de fruits. Et aussi, la voirie urbaine, c'est l'apanage de la province. Si l'OVD n'a pas d'engins, comment la province va réellement travailler? Ce ne sera pas seulement pour la ville de Kananga, ce sera pour toute la province, surtout aussi avec notre deuxième ville, la ville de Tchimboulou.
Dans la ville de Beni, au Nord Kivu, seuls 1021 véhicules sur des milliers que compte la ville sont passés au contrôle technique en 2024. Chiffre révélé hier par Patient Tambanabo, superviseur technique au sein du centre de contrôle technique de Beni, Congo Project Consult. Selon lui, l'insuffisance des sensibilisations et la négligence des propriétaires des véhicules sont à la base de ce faible taux de contrôle. Il en appelle à la conscience des uns et des autres pour se protéger et protéger les vies des autres contre les accidents routiers. Patient Tambarabo est au micro de Marc Marofimbo.
Il y a d'abord un problème de sensibilisation. Et un autre problème, c'est au niveau de nos partenaires, les services de Transcom, les voies de communication. Alors nous pensons qu'avec eux et nous ensemble, nous pouvons relever ces défis en sensibilisant les conducteurs de moto, les responsables de véhicules. Vous savez, plus un chauffeur conduit son véhicule sans savoir l'état de son véhicule, il constitue un danger dans la communauté soit, il peut être un danger pour lui-même d'abord aussi et pour ses clients. Voilà pourquoi nous avons ce devoir-là du côté de Congo Project comme centre de contrôle technique et du côté de nos partenaires comme Transcom. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a bouclage, nous ne pouvons pas seulement nous contenter de percevoir de l'argent, nous pouvons aussi nous contenter pendant le bouclage de sensibiliser les gens, le bien fondé des contrôles techniques de son engin. Puisque si vous constatez bien, les 80 véhicules par mois sont des véhicules des ONG, des organisations non gouvernementales, des véhicules des entreprises, sont des qui respectent au moins la dignité humaine. Mais nous, les individus, on se méfie souvent de ces services de contrôle technique. Et pourtant, un service très capital qui nous protège, nous d'abord comme conducteurs, qui protège également d'autres personnes qui sont en pied.
Autre nouvelle, le vice-ministre de la Justice plaide pour la complémentarité entre les dispositions législatives et réglementaires pour une vie harmonieuse en société. Samuel Mbemba a fait ce plaidoyer hier dans son ouvrage intitulé « Les domaines de la loi et du règlement en droit congolais », ouvrage présenté hier au Palais du Peuple à Kinshasa. À cette occasion, l'auteur juge nécessaire que le gouvernement prenne via les décrets et arrêtés des mesures devant assurer la mise en œuvre des lois votées au niveau du Parlement. Samuel Mbemba, dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Maenda.
Dans l'ouvrage, je pars au-delà des articles 122 et 123 de la Constitution. Parce que si quelqu'un recherche le domaine de la loi uniquement dans les articles 122 et 123, il va se tromper. La Constitution est parsemée de beaucoup d'articles qui requiert l'adoption de loi. Mais à côté du domaine de la loi, il y a le domaine du règlement. C'est-à-dire, toutes les matières que la Constitution n'a pas réservées à la loi reviennent au pouvoir du Premier ministre, c'est-à-dire les décrets qui sont pris en exécution de loi. Là, il n'y a pas de problème. Donc la loi est déjà intervenue, les décrets viennent exécuter. Mais il y a des matières qui ne sont pas réservées à la loi et pour cela, il y a ce qu'on appelle les décrets autonomes qui ont la même valeur que les lois. Et lorsque une loi a été prise dans une matière non réservée à la loi, les décrets peuvent délégaliser cette matière-là.
Présent à cette cérémonie de vernissage, professeur Jean-Louis Sambo, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a salué la pertinence de cet ouvrage. Selon lui, ce livre jette le pont entre les trois pouvoirs traditionnels, à savoir législatif, exécutif et judiciaire. Ce livre de 124 pages a paru à l'édition Espérance 75-005 Paris en France.
Actualité internationale.
Nous sommes en Afrique du Sud. Les équipes de secours ont sorti des mineurs piégés dans une mine près de Stilfontein. Plus d'une centaine de mineurs auraient succombé à la faim ou à la déshydratation. 24 corps ont été extraits et 37 personnes ont été sorties de la mine d'or de Bafelsfontein. Depuis vendredi, le nombre exact des mineurs toujours sous terre reste inconnu. Cependant, pour les organisations civiques et les groupes représentant les mineurs, plus de 500 personnes s'y trouveraient encore sous terre, beaucoup étant malades et affamées.
L'invité.
Le catcheur congolais Edingwe Mutulangenge est décédé lundi 13 janvier au Maroc à l'âge de 73 ans de suite des maladies, annonce faite par le ministre congolais des Sports, Samson Ponti. Ancien catcheur congolais qui a affronté Edingwe plusieurs fois sur le ring témoigne ici sur celui que les amoureux du catch appelaient affectueusement Yaedi. Samson Ponti est avec Kaki Akewa et Kanish Mukongo.
Samson Ponchi, vous êtes un ancien catcheur congolais. Comment vous vous étiez connu avec Edingwe Mutulangenge et qu'est-ce que vous gardez de lui comme souvenir?
De toute façon, un mort, on garde toujours des bons souvenirs. On ne peut pas garder des mauvais souvenirs parce qu'on s'est dit c'est fini. Il n'y a plus de vie sur la terre pour lui. Et c'est dans ce sens-là. Je l'ai connu comment? Je l'ai connu sur le ring. Quand moi je suis arrivé sur le ring, j'ai trouvé qu'il exerçait déjà, il travaillait, il pratiquait le catch.
Et c'était en quelle année comme ça, Ponchi Samson?
Moi, je suis arrivé bien après, mais lui doit avoir commencé dans les années 73, si ma mémoire ne me trompe pas.
Dites-nous, oui. Quel souvenir vous gardez de Edingwe Mutulangenge?
Edingwe Mutulangenge, un catcheur, comme le nom le dit, un homme qui voulait tout oser, qui croyait tout faire, qui croyait être au-dessus de tout le monde et qui fonçait toujours pour être meilleur. Raison pour laquelle il touchait n'importe quoi pour devenir un grand. Et il a fait son temps.
Toucher n'importe quoi, ça veut dire?
C'est-à-dire que lui voulait toujours être la locomotive qui fume, c'est-à-dire la locomotive devant qui, en quelque sorte, entraîne les wagons.
Les anciens connaissent Edingwe Mutulangenge et les jeunes qui ont entendu parler de lui sans qu'il soit vraiment plus actif sur la scène, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de lui par rapport à ce que vous avez vécu parce que vous étiez à côté de lui pendant beaucoup d'années?
Effectivement, Edingwe, c'était un homme, donc le catcheur le plus populaire de la RDC, il faut le dire et le reconnaître aussi, qui voulait toujours être au-devant de la scène, qui ne voulait pas qu'on l'oublie. Et en plus de cela, il faisait tout pour gagner le combat. Quand j'ai dit il faisait tout, il pouvait tout se permettre. Dans ses débuts, Edingwe n'était pas un grand féticheur qu'on a connu vers la fin. Mais était, on l'appelait l'homme de la force brutale. Et il n'avait pas cette coiffure-là. Il avait la tête tendue. Et on savait à lui, avec sa masse et ce qu'il avait comme muscle. Donc on pouvait dire qu'un homme fort, parce qu'il était l'homme de la force brutale. C'est peut-être vers les années 80, 80 quelque chose, que Edingwe était devenu Motonangenge dans le sens où vous connaissez, avec tout ce qui entraîne sa force, l'histoire de la magie, faire danser les gens, etc., etc.
Au-delà de ring, quelles étaient vos relations avec Edingwe en dehors du ring, sur le plan social ou son comportement vis-à-vis des autres catcheurs?
Bon, c'est un homme qui avait sa façon d'être. On peut dire qu'il était sympa avec les uns, un peu dur avec les autres. Mais c'est un homme normal qui avait ses qualités et ses défauts.
On peut dire aujourd'hui que c'est une grande perte pour la nation.
Tout à fait, tout à fait. La mort d'une personne n'a jamais été une joie pour personne. Soit l'adversaire ou pas, aussi longtemps qu'il égayait le public, nous pouvons dire que c'est une perte. Une perte parce que chaque personne est irremplaçable. On peut avoir des petits Edingwe, mais qui ne seront jamais Edingwe.
Ponchi Samson, vous avez porté le nom de Samson. Dans la Bible, nous connaissons Samson, renvoie à la force. Et vous, vous avez porté ce nom pour battre Edingwe. Vous avez rencontré Edingwe combien de fois, par exemple, dans votre carrière? Et puis, vous l'avez battu combien de fois?
Samson, ce n'est pas un sobriquet comme beaucoup peuvent le croire. C'est un prénom. Il m'a été donné par ma grand-mère alors que j'étais encore bébé. J'ai grandi Samson et ce n'est pas le ring qui m'a donné la force. Je n'ai pas vraiment parlé de moi, hein, mais je crois que affronter Edingwe n'était pas un jeu. Mais malheureusement, c'est Edingwe qui doit dire ce qu'il a senti le jour qu'il m'a affronté sur le ring. Et il y a beaucoup de fans qui ont suivi mes combats contre Edingwe. Plusieurs fois, je l'ai rencontré sur le ring, bien entendu. Il savait de quoi j'étais capable. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il était faible devant son adversaire. Je ne veux pas être de ces gens-là qui ne reconnaissent pas qu'ils ont déjà perdu. Moi, je reconnais tout, mais lui devait être vivant pour témoigner de quoi j'étais capable.
Samson Ponchi, merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.